Inter, 8h et 1 minute. Et le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Cap sur la transition écologique, mission prioritaire de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. Le chantier qui l'attend est titanesque, on va l'entendre. Choisie parce qu'elle coche toutes les cases, issue de la gauche, ministre des Transports puis du Travail en passant par l'écologie. Elisabeth Borne, houlard des réformes difficiles, SNCF, assurance chômage à son actif ou son passif, disent les syndicats. Au travail, c'est son mantra alors que les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. Chômage en légère baisse au premier trimestre à 7,3% de la population active. La nomination d'Elisabeth Borne, première femme à Matignon depuis Edith Cresson. On en reparle évidemment juste après le journal,
avec,
Nicolas.
Oui, deux invités dans le grand entretien. 8h20, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. 8h30, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou.
Une place en EHPAD, combien ça coûte? Du simple au double, nous dit ce matin l'UFC Que Choisir, quand il y a de la place. Dans ce journal aussi, des motards récompensés par la gendarmerie sur les routes de l'Ardèche parce qu'ils conduisent bien. Et puis demandez le programme, le festival de Cannes lève le rideau, vous saurez tout à la fin du journal et à 8h50 avec la maîtresse de cérémonie Virginie Efira.
France Inter.
Agir plus vite et plus fort face aux défis climatiques et écologiques. Les premiers mots d'Elisabeth Borne dans la cour de Matignon hier, c'est dans sa fiche de poste en tête de liste. Première ministre directement chargée de la planification écologique. Enjeu massif, atteindre la neutralité carbone en réduisant chaque année nos émissions de gaz à effet de serre de 5%. Bonjour Célia Quiré.
Bonjour.
Voilà qui suppose du rapide et du concret.
Et cela commence par un budget. Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne 10 milliards d'euros par an en plus pour cette planification écologique. Le but est d'aller deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, rénover 700 000 logements par an, installer des milliers de bornes électriques, aider les ménages modestes à changer de voiture ou à louer un véhicule électrique à moindre frais, accompagner les industriels pour qu'ils sortent des énergies fossiles. La feuille de route donne le vertige. Selon certains économistes, une loi de programmation pluriannuelle est d'ailleurs indispensable. En 2023, le gouvernement d'Elisabeth Borne devra rédiger la future stratégie énergie-climat. Tout cela pour que la France, déjà épinglée par la justice, respecte ses engagements.
Et Célia, on n'oublie pas les sujets qui fâchent.
Oui, et ils sont nombreux. Les éoliennes, Emmanuel Macron a promis 50 parcs en mer. Certains, comme celui d'Oléron, sont très contestés. Si ce n'est l'Elysée, Matignon devra trancher d'ici la fin du mois de juillet. Les centrales nucléaires, faudra-t-il prolonger les vieux réacteurs ou installer les nouveaux EPR prévus à partir de 2035? Le charbon, en principe, la France en était sortie, mais il est possible que la centrale de Saint-Avold continue de tourner l'hiver prochain. Et enfin, la protection de la nature sera-t-elle vraiment une priorité à Matignon face à certains agriculteurs, face aux chasseurs? Le sujet est sensible et pourtant crucial. Selon le WWF, par exemple, il faudra diviser par deux l'utilisation des pesticides ou parvenir à 25% de terres cultivées en bio.
Célia Quiré, alors passée par le ministère de l'écologie pendant un an, entre ses postes au transport et au travail, Elisabeth Borne ne découvrira pas ses dossiers, ce qui est plutôt rassurant pour les ONG. Encore faut-il avoir les moyens de ses objectifs, dit Anne Bringot du réseau Action Climat.
C'est une ministre qui, quand elle était effectivement à la transition écologique, était ouverte au dialogue avec les parties prenantes, notamment les ONG, et qui, c'est quelqu'un qui aime bien aller au fond des dossiers, donc qui connaît bien ces sujets. Ensuite, comme tous les autres ministres qui sont passés par ce ministère de la transition écologique, elle a eu beaucoup de mal à faire avancer ces dossiers. Clairement, elle n'avait pas les manettes pour agir sur les leviers nécessaires pour faire cette transition écologique qu'il faut actuellement accélérer. Donc, il faut qu'effectivement, en tant que première ministre, qu'elle mette tous les ministres effectivement sur cette voie de la transition écologique, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Anne Bringot pour le réseau Action Climat avec Sandy Dauphin dans l'opposition politique. Les réactions sont logiquement moins bienveillantes. Elisabeth Borne partage la responsabilité de ces 5 ans perdus pour le climat, dit Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, quand le reste de la gauche et le Rassemblement National l'attaquent sur son bilan social. Des réformes difficile, menée par l'ancienne patronne de la RATP, Laurent Kramer. On citera l'assurance chômage et la périlleuse réforme de la SNCF. Les syndicalistes s'en souviennent.
En dépit d'une grève historique à la SNCF au printemps 2018, Elisabeth Borne tient alors la barre au ministère des Transports.
Je pense d'abord aux usagers.
Extinction du statut du cheminot, ouverture à la concurrence malgré 3 mois de grève.
Ceux qui prennent le train tous les matins pour aller au travail, qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisé ce soir.
Son sens de l'État se transforme en rouleau compresseur qui ne dévie jamais de sa trajectoire, se souvient Roger Dillenseger, ancien secrétaire de l'UNSA SNCF.
Je retiens surtout une ministre intransigeante et très très rigoureuse. Moi, j'ai toujours reconnu en elle une femme qui applique les directives et qui les met en œuvre. Et coûte que coûte, en termes de négociations et d'approche sociale, c'est parfois difficile.
Au ministère du Travail, Elisabeth Borne porte ensuite l'atterrissage de la difficile réforme de l'assurance chômage.
Alors effectivement, la réforme de l'assurance chômage, l'objectif, c'est d'encourager le travail. C'est le moment pour encourager le travail et c'est l'objectif de la réforme de l'assurance chômage.
Polytechnicienne, Elisabeth Borne a également porté les dossiers les plus techniques à la tête de la RATP et de la SNCF sur les transformations numériques et écologiques des deux entreprises.
Voilà, la réforme de l'assurance chômage pour accompagner une situation qui s'améliore sur le front de l'emploi, c'est l'argument, on vient de l'entendre, de la ministre du Travail ces deux dernières années. C'est désormais l'objectif qu'Emmanuel Macron a fixé à sa première ministre, le plein emploi en 2025. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
L'INSEE vient justement de publier les chiffres du premier trimestre de cette année, chômage en légère baisse.
Ouais, légère baisse, hein, selon l'INSEE. 18 000 demandeurs d'emploi de moins si l'on compare au trimestre précédent. Pour vous dire, ça représente une baisse en pourcentage de 0,1 point seulement. C'est moins flagrant qu'il y a 3 mois, hein, 0,6%. Mais ça confirme la tendance, bien qu'il y ait quelques ombres au tableau. Hein, le chômage des jeunes, par exemple, qui avait fortement baissé au précédent trimestre, rebondit légèrement. Plus 0,3% de jeunes en plus au chômage. Et le nombre de seniors, comme on les appelle, la catégorie des plus de 50 ans sans emploi, reste un sujet réel de préoccupation, avec un taux à 5,6% de la population active. Leur situation ne s'améliore pas. Argument massue, on le sait, hein, pour les syndicats qui restent vent debout contre la réforme des retraites. Réforme sur laquelle Emmanuel Macron reste inflexible. Le président qui s'est donné pour objectif, vous l'avez dit, le plein emploi pour son second quinquennat. Il reste encore quelques obstacles à lever.
Voilà pour le tableau de l'emploi. Merci Maxime Debs. À l'aube du quinquennat, qui sera le futur ministre du Travail? Quel casting pour le prochain gouvernement? Ça, on le saura dans les jours qui viennent. En attendant, on sait déjà qu'Elisabeth Borne va mener la bataille des législatives. Candidate dans le Calvados, elle n'a jamais brigué aucun mandat électoral jusqu'à présent. Et puis une femme à la tête du gouvernement, à l'heure où l'égalité femme-homme sera de nouveau la grande cause du quinquennat, progressera-t-on dans la lutte contre les féminicides? Une femme de 37 ans a été retrouvée poignardée hier à Béziers, sans doute par son ex-compagnon, déjà condamné et incarcéré pour violence et menaces. Elle avait refusé qu'il soit équipé d'un bracelet anti-rapprochement. Si le guide des EHPAD existait, on y découvrirait que certains départements en ont beaucoup, d'autres très peu, et que leurs tarifs varient du simple au double. Constate l'UFC Que Choisir, à mettre au débat du quinquennat qui vient là aussi, où l'on attend toujours une réforme du grand âge et de la dépendance. Agnès Soubiran, les inégalités sont assez criantes en la matière.
Quand il n'y a pas d'autre choix que l'EHPAD pour les personnes de plus de 75 ans très dépendantes.
En Mayenne, 90% de ces personnes peuvent être accueillies en EHPAD, et ce taux chute à 42% dans le Gard et même 38% en Corse.
Antoine Autier est le responsable des études à l'UFC Que Choisir.
L'autre inégalité réside dans le coût d'accès aux EHPAD. En moyenne en France, c'est 2214 euros par mois avec des inégalités départementales. Plus il y aura d'EHPAD privés dans un département, plus les prix seront élevés et finalement les résidents seront captif très souvent des prix très élevés pratiqués par les EHPAD privés.
Autre problème pour Ilona Delouette, docteur en économie et spécialiste du financement de la dépendance, si toutes les places dans le public sont ouvertes aux personnes les plus défavorisées bénéficiant de l'aide sociale à l'hébergement, c'est loin d'être le cas dans les établissements privés.
Quand on a une place habilitée à l'aide sociale, on a son tarif hébergement qui est contrôlé en fait, parce que le département finance une grande partie de cet hébergement, donc il a un droit de regard en fait. Et donc le privé lucratif ne souhaite pas dans la plupart des cas avoir des places habilitées à l'aide sociale. salariale, puisque ça supposerait qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut sur sa partie hébergement, qui est la partie sur laquelle il fait des marges.
L'UFC Que Choisir demande donc en urgence la création de nouvelles places dans des structures publiques et un plafonnement des prix dans les structures privées, rappelant qu'un prix élevé n'est en aucun cas synonyme d'une meilleure prise en charge.
Agnès Soubiran, seins nus ou burkini, au libre choix des baigneuses dans les piscines de Grenoble, le projet polémique du maire écologiste Éric Piolle est passé à une courte majorité hier soir en conseil municipal, 29 voix pour, 27 contre.
Il est 8h11, comment faire la fête sans devenir parano?
C'est un peu le problème en ce moment, dernier événement en date, l'arrestation d'un homme à Lyon ce week-end avec une seringue sur lui et du GHB, la drogue du violeur. Face aux plaintes qui se multiplient, une association forme les bars et les discothèques, elle s'appelle Consentis, au travail hier au cabaret aléatoire à Marseille. Reportage Faustine Calmel.
Entre le bar et la scène, un rétroprojecteur a remplacé les fêtards.
Sur le point du consentement selon Consentis.
Clémentine et Safia, tout formatrice, proposent des clés pour réagir.
Vous n'êtes pas sûr que la personne en face est consentante. Vous pouvez aller sur la scène.
Ces situations de fragilité, c'est justement ce que Thomas, régisseur bar, guette derrière le comptoir.
C'est savoir toujours un œil sur ce qui se passe devant nous, d'apporter une certaine autorité à un moment donné quand besoin est, c'est-à-dire disputes, comportements bizarres. Et là, d'un coup, ça nous permet d'avoir des bons réflexes.
La semaine dernière, une cliente a dénoncé une intoxication au GHB. Pourtant, des actions déjà sont menées à Sur Justine, chargée de projet.
Par exemple, on a mis en place les fouilles pour pouvoir déjà faire de la prévention et notamment les piqûres aujourd'hui qui ne sont pas détectables d'une autre manière qu'à la palpation.
Agir, c'est devenu indispensable pour l'image des établissements ciblés par le hashtag Balance ton bar sur Twitter. L'intervention de Consentis, c'est une garantie de prise en compte du problème, assure Safia Tou, formatrice.
C'est toujours compliqué de dire cet établissement est complètement safe, on ne sait pas qui vient, mais ce sont des structures qui ont été formées et à la réduction des risques et aux violences sexistes et sexuelles. S'il se passe quelque chose, en tout cas, on sera pris en charge comme il faut.
Et pour ces établissements, le terme de safe bar, bar sûr, commence à se diffuser à son tour sur les réseaux sociaux.
Faustine Calmel à Marseille, quand les gendarmes vous arrêtent sur la route, pas pour vous verbaliser, mais pour vous récompenser. En Ardèche, la carotte remplace parfois le bâton et ce sont les motards respectueux du code de la route qui en profitent. William Delesseux.
Cela commence comme un contrôle de routine.
Présentez les papiers du véhicule, ainsi que le permis de conduire, s'il vous plaît.
Les trois gendarmes motocyclistes ont été prévenus par radio. Ils interpellent ici, au bord de la départementale 104, ce motard.
Je vous laisse couper le contact, enlever le casque et me donner les documents du véhicule, s'il vous plaît.
J'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas de souci avec ça.
Bruno, confiant face aux gendarmes, le chef Dimitri Courel s'approche. Il est le seul à être tout en noir, en civil.
Donc, c'est moi qui vous ai suivi à distance, oui. Sans que vous me détectiez. Première chose qui me frappe, c'est votre trajectoire. Vos trajectoires, effectivement, elles sont tout à fait propres. J'ai relevé aucune infraction, en tout cas sur la dizaine de kilomètres où je vous ai suivi. Pour moi, vous êtes quelqu'un de vertueux.
Sur des contrôles comme ça, ça fait plaisir de se faire arrêter pour de la prévention et pas que pour se faire réprimander, et c'est bien.
Le motard remporte donc un gilet airbag d'une valeur de 800 euros. Une idée signée commandant Laurent Zanetto, lui, et ses hommes sont tous équipés de cette protection.
Ça sauve des vies. Ça protège vos organes internes, ça protège votre colonne vertébrale. Et donc, si tous les utilisateurs pouvaient en porter un, je pense qu'il y aurait peut-être plus de vies sauvées.
Et une vingtaine de bons conducteurs ont gagné ces gilets gonflables. Ils recevront leur prix dans un mois au cours d'une cérémonie.
Voilà, et pour eux, les prix, ce sera dans un peu moins de 15 jours sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. 21 films en compétition avec autant de réalisateurs, de scénaristes, de premiers rôles féminins et masculins. Du beau monde sur tapis rouge à partir de ce soir, 75e édition du Festival de Cannes. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Florence.
Vous y êtes déjà et faites-nous saliver, Alexis, quels sont les films les plus attendus?
D'abord ce long métrage russe qui ouvrira demain le bal de la compétition. La femme de Tchaïkovski, le dissident Kirill Serebrennikov, enfin libre, signe un biopic en creux du compositeur du Lac des Cygnes. Les festivaliers attendent aussi avec impatience Les Crimes du Futur de Cronenberg avec Viggo Mortensen et l'incontournable Léa Seydoux. Tori et Lokita, le nouveau drame social des frères Dardenne, déjà double palmé d'or. Ou encore Les Nuits de Mashhad, un thriller iranien autour de meurtres de prostituées dans une ville sainte. Hors compétition, il y a bien sûr le tourbillonnant Top Gun Maverick avec Tom Cruise, novembre sur la traque du terroriste Abdelhamid Abaoud, Elvis de Baz Luhrmann qui retrace l'ascension du king du rock'n'roll, et bien sûr Coupé, le formidable making-of de films d'horreur signé Azana Vicius.
Alors des films à voir au cinéma, bien sûr, Cannes c'est la plus belle des promotions, sauf qu'au cinéma, eh ben on y va moins, le contexte est comme qui dirait morose.
Ah oui, la fréquentation des salles obscures ne retrouve pas sa santé d'avant pandémie. Hier, l'association des cinémas d'art et essai a publié une étude éloquente. 41% des Français abonnés aux plateformes type Netflix vont moins, voire plus du tout, au cinéma. Et si, contrairement à Venise, Cannes se refuse toujours à sélectionner des films qui ne sortent pas en salle, le rapport de force continue de se muscler, Florence.
Alexis de Meyer en direct de Cannes, et pour nous donner envie d'aller tous au cinéma dès ce soir, sachez que le dernier Azanavicius dont vous parliez, coupé, comédie sanglante et jubilatoire, sort en salle ce soir, en même temps qu'il sera présenté au festival à 19h.
Merci Florence Paracuelos.